complètement à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis midi dans l'émission Complètement à l'Est. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre des Nancéens pour notre micro-trottoir pour leur demander quand est-ce qu'ils ont commencé à acheter leur cadeau de Noël et quel a été leur dernier achat. Nous aurons pour notre invité de la semaine Martin Blin, un jeune investisseur dans le marché financier. Nous parlerons ensemble de son parcours professionnel, de comment accompagner un client pour l'aider à investir efficacement et plus encore. Pour démarrer, je vous emmène à un moment festif au goûter du Haut du Lièvre avec des témoignages des jeunes de l'opération Argent de Poche avec leurs encadrants qui ont aidé à la préparation de l'événement.
Complètement à l'Est sur RCN.
Bah là, on est au goûter des assos, donc c'est une après-midi festive. On propose des activités, des ateliers aux enfants. Il y a plusieurs stands et à la fin, on leur offre un petit cadeau. Okay. Voilà.
Donc en lien, donc cet après-midi est en lien avec donc l'équipe de prévention, l'OMH, la PJJ, Argent de Poche, Asa et Franca. Et la médiathèque. Voilà, tous ces acteurs se sont réunis pour proposer à la population, autant aux enfants qu'aux adultes, des stands d'animation avec un petit goûter gratuit offert. Et cet après-midi sera clôturé par un compte donné par la médiathèque, ainsi qu'une distribution de cadeaux, de petits gâteaux, de petits pop-corn, pour finir sur une note autour des fêtes de fin d'année.
D'accord. Et c'était quoi l'objectif du coup de ça aujourd'hui ?
De réunir, de partager, de promouvoir aussi les assos du secteur, mais surtout de partager un moment festif tous ensemble par rapport aussi au réaménagement urbain qu'il y a. Tout le monde est un peu éparpillé et là pour le coup on avait aussi besoin de se retrouver.
Okay. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir.
On est d'accord. Voilà.
Bah, tout d'abord, c'est un dispositif Argent de Poche qui sert à sensibiliser les jeunes de 16 à 21 ans. Et ils peuvent, on les aide à ramasser les déchets que la ville jette par terre. Ouais. Et du coup, une fois qu'on aura fini ce chantier, 1h30, 2h à peu près, on rentre à MJC, on mange des Kinder, des Capricorn et tout. Okay. Et on est payé 15 euros et il y a 3 chantiers dans le mois. Okay. Un par semaine et au total ça fait 45 euros.
Ah, vous êtes payé 15 euros par chantier ?
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est une gratification quoi.
Ouais, bah oui. Okay. Le fait d'avoir ramassé. Et aussi ça sert aussi plutôt aux jeunes, puisque on préfère au moins qu'ils aient un petit peu d'argent de poche que de tomber directement dans la drogue, tous les trucs comme ça. C'est mieux quand même qu'un truc qui soit encadré avec des gens. Et aussi dans Argent de Poche, il n'y a pas que ramasser des déchets, puisque ça peut être un peu chiant à un moment. Il y a aussi, on colle des affiches. Ouais. Pour ceux qui veulent aussi participer au Argent de Poche. Et on fait aussi, comme par exemple il y a 2 semaines, on était au local juste à côté, on sensibilisait les jeunes sur l'harcèlement. Okay. Il y avait l'intervention de la police et tout, qui sensibilisait un maximum. Et plein de trucs comme ça, plein de petits trucs cool. Bah, comme ça aussi, c'est un chantier. Okay. Alors, on est payé, on mange normal et c'est encadré. Voilà, c'est, voilà quoi, c'est bien.
Okay. Et là aujourd'hui du coup c'est quoi votre rôle ?
Bah c'est de présenter ce dispositif, ramener des jeunes s'ils veulent, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui connaissent, même si la plupart du quartier ils l'ont déjà fait. Expliquer aux adultes pour qu'ils ramènent leurs enfants et tout ça.
Ok. Ouais. Et du coup vous habitez dans le quartier ?
Ouais.
Donc vous habitez là.
Au Julèvre, là juste à côté.
Après il y en a plein, ils viennent aussi du Champ de Bœuf.
D'accord. Ah, c'est pas que les gens.
Non, c'est. Ils sont le bœuf, l'axou, tout ça.
Comment ça se passe, les dispositifs Argent de Poche au quotidien
Bah, en vrai, franchement, ça va. Hein. C'est plutôt agréable. Ouais. On a une bonne convivialité avec tous nos camarades. Malgré des petites intercations, parce que des fois, c'est un peu dur, parce qu'il y a beaucoup trop de déchets un peu sales, quoi. Et du coup, bah, franchement, à part ça, ça se passe bien. Okay. On n'a pas trop de difficultés, hein, ça va.
Donc là, vous êtes au lycée, au collège
Non. Moi, j'ai arrêté.
Okay. Ah oui, ok. Donc vous avez déjà 21 ans.
Non, moi, j'ai 18 ans. Moi, j'ai 18.
Vous êtes combien quand vous allez faire vos chantiers
14.
Ouais, on est 14. Ouais, une dizaine.
Ouais, une dizaine. Genre, ils font moitié entre les deux encadrants, Laurent et Émilie. On fait un groupe mixte, à peu près 3 filles et 4 garçons. Okay. Vu qu'il y a plus de garçons que de filles. Ouais. Et du coup, on fait ça par chantier et par groupe. On a à peu près 15, 10, un truc comme ça.
Et donc du coup, est-ce que ça vous aide, donc, comme tu as dit, à pas forcément tomber
vraiment.
Au de la drogue ou tout simplement.
Ouais, vraiment. Personnellement, moi, ça m'aide, puisque genre comme des sorties, par exemple, pour faire au cinéma, aller manger dehors et tout, On n'est pas forcément obligé de demander à nos parents, donnez-moi de l'argent ou quelque chose. On fait notre petit chantier et on a 15 euros, du coup on peut aller se régaler, se mettre bien et tout. Et voilà quoi.
C'est la radio.
Complètement à l'est sur RCN.
Donc le food truck, en fait, ça appartient à un groupement d'intérêt public. Ça a été acheté par la PJJ et puis la ville, les bailleurs sociaux. En fait, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe plusieurs entités. Et en fait, l'idée, c'était de travailler autour d'amener le food truck, donc un espace de convivialité, sur les quartiers, au plus près des quartiers, quand il y a des manifestations culturelles, sportives, comme là aujourd'hui. Là. Ouais. C'est une sortie sur des goûters, donc crêpes, chocolat, avec des gaufres. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment d'amener de la convivialité sur les quartiers. Et aujourd'hui, notamment, c'est pour valoriser tous les jeunes qui interviennent sur l'opération Argent de Poche. Mmh. Savoir que le GIP, il intervient sur 7 quartiers politiques de la ville sur 8. Okay. Et dans chaque quartier, il y a des jeunes comme ça qui sont volontaires. Alors, il parlait de salaire, ce n'est pas des salaires. Hein. Il y en a bien un qui a compris, c'est bien une gratification. C'est juste pour valoriser les jeunes qui puissent avoir de l'argent qui est gagné nettement, proprement, sur de l'embellissement des quartiers. Mais il y a aussi des séquences sur des espaces. Ils ont travaillé dernièrement sur le harcèlement. Donc oui. C'est aussi sur des notions de citoyenneté, de laïcité, sur des espaces collectifs valorisants, au lieu de se concentrer sur les jeunes dans les quartiers qui ne font que des erreurs, que des passages à l'acte délictuels. Et c'est pour ça que la PJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Okay. Elle intervient normalement dans un cadre de mesures pénales. Et là, on intervient sur un cadre de prévention, en fait. Le nom du GIP, le groupement d'intérêt public, c'est prévention, protection judiciaire de la jeunesse. Voilà. Donc, au lieu de travailler avec des jeunes qui ont déjà commis des délits, on travaille avec des jeunes qui sont juste dans les quartiers et qui ont envie de montrer des choses positives qu'on fait aussi dans les quartiers. Et ça, c'est jamais valorisé, on n'en parle pas souvent. Okay. L'idée de ce groupement d'intérêt, c'est justement qu'on parle aussi de ces jeunes-là, des jeunes qui ont entre 16 et 21 ans et qui sont vraiment dans un... Je souris parce que justement, il y a un encadrant qui est là, c'est lui qui encadre tous les jeunes chaque jeune a 3 chantiers par mois et c'est lui qui encadre tous les jeunes. Donc c'est à lui que revient la tâche d'encadrer ces jeunes-là, et c'est vrai qu'il y a un vrai espace de convivialité, il y a une bonne ambiance. Quoi. Voilà.
Là, je suis sur le dispositif Argent de Poche sur le plateau de Haye depuis 4 ans. Avant, j'étais à Bourgard sur animation aussi, sur le dispositif Argent de Poche, ados, etc. Je travaillais avec les ados. Et là, on fait le dispositif Argent de Poche sur le plateau de Haye pour tous les jeunes de 16-21 ans qui font des chantiers éducatifs de 2 heures. Ils ont un paiement de 15 euros par chantier. Voilà.
Comment ça se passe du coup l'objectif Argent de Poche au quotidien?
L'objectif, c'est avec le groupement d'intérêt public, le GIPS, avec MMH et tous les financeurs. Mmh. Et les jeunes font des chantiers de 2h30 et ils gagnent 15 euros à chaque chantier. Et ils ont le droit à 3 chantiers par mois. Okay. Mais à part de ramasser les déchets, on fait aussi des manifestations. Mmh. Avec des associations afin de changer du ramassage de déchets. Ils peuvent installer les tables, faire les restes du cœur. Okay. On fait aussi, quand il y a un concert, on installe les tables, ils font l'accueil. Ça leur montre autre chose. Et puis ils peuvent développer des projets sur la prévention, sur la drogue. On fait des réunions sur la drogue, sur le harcèlement. Mmh. On fait plein de réunions comme ça. Ça rentre en argent de poche, ils gagnent 15 euros. Okay. Mais ils ont un bilan à rendre sur... sur la réunion pour un petit compte rendu de 10 pages pour voir justifier ou quand même qu'ils ont participé pour pouvoir gagner 15 euros dans le sens que d'accord. C'est donnant entre okay.
Voilà. Moi l'objectif argent de poche je le connais parce que quand j'étais plus jeune j'y ai participé et à l'ancienne c'était là
avec Mohamed Saïd
donc je vois que ça a évolué maintenant parce que nous on allait vraiment que sur le ramassage des déchets.
Ouais.
Là aujourd'hui vous faites beaucoup plus de trucs ça a
fait nous là on a discuté avec les partenaires comme au MMH, le GIP, tout ça afin de développer le projet sur d'autres chantiers. Mm-hmm. Parce que ramasser, c'est bien, mais le jeune doit apprendre autre chose, le respect aussi envers les habitants. Mm-hmm. Et puis apprendre autre chose, ça peut être sur la drogue, sur le harcèlement scolaire, mm-hmm. sur la citoyenneté, sur l'environnement. On fait un peu tout sur le développer, l'argent de poche. Et vu que les partenaires sont d'accord, on met des projets sur, comme aujourd'hui, ils sont là, ils présentent l'OAP avec une petite exposition qu'on a fait. Mmh. C'est des photos que les jeunes ont prises. Mmh. Parce que plus souvent, c'est les jeunes qui... On donne des idées de projets, c'est eux qui développent le projet, afin qu'ils s'intègrent mieux dans le projet.
RCN, complètement à l'Est, elle fait nous.
On se retrouve dans un instant pour notre micro-trottoir, juste après What's This de Danny Elfman.
There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? Children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around a hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this? Christmas Town?
RCN, complètement à l'Est, elle finit.
Aujourd'hui, pour notre micro-trottoir, on demande aux Nancéens quand est-ce qu'ils ont commencé à acheter leur cadeau de Noël et quel a été leur dernier achat. Voici leur réponse.
Il y a une semaine
à ouais, peu près. Acheter, ouais, peut-être une ou deux semaines, mais prévu depuis longtemps, mais c'est juste après, les achats sont faits plus tard.
Ouais, non, moi, il y a une semaine.
Vous avez terminé là, vos cadeaux de Noël?
Non.
Ouais, on finalise.
Vous êtes en train d'acheter là?
Oui,
ouais,
là,
on
est en train
un
de.
Deux, un ou deux cadeaux. Ouais.
Et là, vous avez acheté quoi là par exemple?
Ah bon, on dit pas. Non, des produits, des bougies, ce genre de choses.
D'accord.
Des plus petits cadeaux. Les gros sont déjà prévus.
Mi-novembre.
Mi-novembre, acheter vos cadeaux de Noël.
Oui.
Vous avez terminé il n'y a pas longtemps
Oui, à l'instant, oui.
Sur le marché de Noël.
Ok, vous avez acheté quoi comme dernier cadeau de Noël?
Un bracelet.
J'ai commencé à acheter mes cadeaux de Noël au début du mois de décembre à peu près.
Et là, t'as déjà fini tous tes cadeaux?
Oui.
Et c'était quoi ton dernier cadeau que t'as acheté?
Un bracelet Pandora pour ma copine.
Bah, j'ai commencé il y a 2-3 semaines à les acheter.
Okay. Et là, t'as terminé tous tes cadeaux?
Ouais, j'ai eu du mal, mais ouais.
Ok, c'était quoi ton dernier cadeau?
C'était pour mon père, c'était une veste Tommy Hilfiger.
À peu près 10 jours.
Il y a 10 jours?
Et ouais.
Vous avez terminé, là?
Non, je suis en train de terminer, là, justement.
C'était quoi le dernier cadeau que vous avez acheté, là, pour moi?
Qu'est-ce que j'ai acheté? Une petite affiche d'un créateur d'ici, de Nancy, une petite affiche florale.
Je les ai fait, donc je n'ai pas forcément acheté, mais j'ai commencé peut-être il y a 2 semaines, je dirais, un peu tardivement.
C'était quoi comme cadeau de Noël?
Bon, c'était des peintures, tout ça.
Donc t'es peint?
Non, pas peintre, mais c'est un passe-temps, c'est une passion, voilà.
Ok, d'accord, c'est sympa. Et toi?
J'ai commencé au mois d'octobre.
D'accord. Et là, t'as fini?
Non, il m'en manque.
Et c'est quoi le dernier cadeau que t'as acheté?
C'est un vase pour ma grand-mère.
Ouh là là, j'ai commencé à acheter les cadeaux de Noël, c'était il y a un moment, j'ai dû commencer il y a 2 mois facile. Okay. Donc ça, je fais mois par mois, moitié-moitié.
Ok. Et facile. Là, du coup, t'as déjà fini tous tes cadeaux?
Tout cadeau fini. Finito depuis 2 semaines, je crois.
Et
un
c'est
truc
quoi
comme ça.
Dernier cadeau que t'as acheté?
Dernier cadeau, c'était le cadeau de mon père, ouais. C'était une bouteille d'alcool.
Okay,
comme il veut refaire sa panoplie, son bar, donc j'y participe.
Ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, mais j'ai tout acheté d'un coup. Non, il me reste un dernier truc à acheter, mais c'est sur internet, donc ça va aller.
C'était quoi ton dernier cadeau que t'as acheté?
Le dernier truc que j'ai acheté aujourd'hui, genre,
ouais,
le tout dernier, bah, c'était des petits gâteaux artisanaux pour genre un sachet pour tout le monde, voilà.
Okay,
c'était ça.
Merci. Et toi?
C'est quand Noël? moi j'ai commencé les cadeaux de Noël la semaine dernière en vrai.
Ok.
Et
quel est ton dernier cadeau que t'as acheté?
Le dernier cadeau que j'ai acheté, c'était un Smecta. Le dernier cadeau que j'ai acheté, c'est un livre à la Fnac.
Okay.
J'ai acheté le dernier livre de Miyazaki.
Ouais, Miyazaki.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
RCN, complètement à l'est, elle fait nous.
Dans un instant, nous retrouverons notre invité de la semaine, Martin Blin. Pour l'instant, nous allons écouter Wonderful Christmas de Paul McCartney.
The mood is right. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. We're here tonight,
Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant avec l'invité de la semaine, Martin Blin. Comment vas-tu ?
Bah écoute, Élie, je vais très bien. Et toi ?
Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, d'où viens-tu ?
Bien sûr. Alors, moi, j'ai hérité à l'âge de 18 ans de ma grand-mère. Et donc, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'investis sur les marchés financiers. Et puis, je me suis rendu compte que pas mal de mes proches, au fait, avaient des difficultés pour investir ou du moins n'investissaient pas forcément de manière très optimisée. Donc, vu que j'ai une certaine expertise par rapport à ça, j'ai passé un diplôme de conseiller financier cette année pour pouvoir ouvrir un cabinet de conseil financier. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'y fais ? Il sera prêt dans quelques semaines, c'est pas encore prêt, il reste quelques détails administratifs à régler. Mais l'idée, ça serait d'accompagner chacun des épargnants pour les aider à investir au mieux et éviter, entre guillemets, les pièges qu'on peut retrouver dans les banques ou chez certains gestionnaires de patrimoine.
D'accord. Alors, quel était ton parcours ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu te lances dans le marché financier ?
Alors, il faut savoir que je m'intéresse à l'économie depuis que j'ai à peu près 13-14 ans. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, à l'école, c'était à peu près l'une des seules matières où j'étais vraiment bon. Le reste, j'étais pas un élève modèle. Et quand j'ai eu, justement, quand j'ai touché l'héritage lorsque j'avais 18 ans, je me suis rendu compte que la plupart des solutions qu'il y avait justement dans les banques ou même chez un gestionnaire de patrimoine, que c'était souvent cher en termes de frais et que sur le long terme, en fait, les performances proposées entre guillemets ne permettaient même pas de battre entre guillemets les gros indices boursiers, alors qu'un indice boursier, on peut l'acheter facilement sans trop de contraintes techniques et n'importe qui peut faire ça.
Ouais.
Donc au départ, je me suis dit que j'allais investir par moi-même, donc ça faisait un peu peur à mes parents. Au début, ils ne comprenaient pas trop ma démarche justement. Pour eux, c'était normal de voir un gestionnaire de patrimoine ou un banquier pour placer son argent. Donc c'est là où j'ai réellement commencé à m'intéresser à ça. Et surtout, cette année-là, j'étais en école de marketing digital à Strasbourg et ça me plaisait pas trop. Donc moi, ça me permettait, entre guillemets, de bosser sur quelque chose de secondaire, mais qui me plaisait beaucoup. Okay. Et donc, j'ai fini, entre guillemets, mon année de marketing à Strasbourg. Puis c'est là où je me suis dit que j'allais me concentrer à 100% sur mes investissements parce que c'est un univers qui me passionne, quoi.
Ok. Et du coup, là, tu as fait ton école de marketing à Strasbourg, donc ça veut dire que tu as quand même des diplômes dans ce milieu-là.
Non, parce que j'ai fait qu'une seule année et si je ne me trompe pas, c'était en 5 ans.
Ok.
Donc en fait, je suis parti en cours de route parce que les professeurs étaient plutôt des gens qui étaient des théoriciens et moi, je préfère les gens qui sont dans la pratique, qui font quelque chose de concret. Il me semble sur les 8 profs que j'avais, il n'y en avait que 2 qui bossaient activement dans le marketing. Je trouvais ça un petit peu abusé que quelqu'un m'apprenne quelque chose alors que qu'il ne faisait pas entre guillemets ces choses-là au quotidien dans leur profession de tous les jours. Donc puis certains d'entre eux justement avaient été profs toute leur vie, donc je trouvais ça un peu dommage, quoi.
Donc il te fallait plus un milieu concret ou des gens qui travaillaient forcément
c'est pour ça que moi j'aime bien le modèle de alternance, le truc qui a rien à voir, mais j'aime bien le modèle de alternance parce que ça permet aux gens justement de se former progressivement et surtout de voir directement si le métier leur plaît. Parce que quelqu'un qui va faire des études, je sais pas, pendant peut-être 3, 4, 5 ans, s'il a, admettons, que 2 semaines de stage par an, peut-être qu'en fait, il ne se rend pas assez compte de ce que représente le métier. Et peut-être qu'à la fin de ses études, ça peut moins lui plaire.
Ouais.
Donc, je pense que pour moi, c'est un bon moyen, l'alternance, de voir rapidement si ça nous plaît ou pas, quoi. Okay. D'ailleurs, le modèle suisse est très axé là-dessus, mais là, je fais une petite digression. mais voilà.
Ok. Et donc là, quel est ton professionnalisme par rapport à tout ça ? Quel est le diplôme que tu as quand on vient de voir et qu'on... Parce que on va le dire, t'es jeune, t'as 21 ans.
Je suis relativement jeune et je peux comprendre que pour certaines personnes soient réticentes à se faire conseiller financièrement par quelqu'un qui est très jeune. Alors du coup, j'ai plusieurs éléments entre guillemets à apporter. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'investis sur les marchés. Donc pendant ces 3 ans, il faut comprendre que la majorité de ce que je faisais, c'était de modéliser des stratégies d'investissement et voir comment est-ce qu'elles se sont comportées dans le passé.
Okay.
Donc ça, c'est surtout beaucoup d'histoires financières, analyser ce qui s'est passé dans le passé et utiliser des logiciels pour modéliser des stratégies et voir quel rendement on peut attendre sur le long terme, quelle volatilité on peut avoir sur le portefeuille. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Et je le fais toujours d'ailleurs actuellement aujourd'hui, j'ai pas mal de stratégies qui sont en cours de développement par rapport à ça.
Oui.
Et en parallèle de ça, cette année, j'ai fait une formation du coup pour devenir conseiller en investissement financier. C'est un statut qui ressemble un peu à gestionnaire de patrimoine, mais à quelques détails près. Donc pour ça, en fait, j'ai fait une formation avec un organisme agréé, une formation que j'ai fait très rapidement, en fait, parce que parce que je connaissais déjà un peu tous les rouages du métier, donc j'ai validé la formation très rapidement parce que j'avais déjà plus ou moins réponse entre guillemets à la plupart des situations qui m'étaient présentées. Mmh. Et suite à ça, du coup, j'ai passé ce qu'on appelle la certification MF, qui est obligatoire pour la plupart des professions financières en France, parce que ça permet de... Bon, honnêtement, c'est un peu un... Comment dire ? C'est des questions qui sont pas très complexes dans le fond, mais c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est un peu du bon sens, quoi.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui viennent te voir, comment tu les appâtes, comment ça se passe en fait ?
Tu peux reposer la question, s'il te plaît.
Aujourd'hui, quand il y a des personnes qui viennent te voir pour un conseil financier, comment ça se passe ?
Ok, alors il faut savoir que mon cabinet du coup sera prêt dans à peu près 3 semaines. Donc là, actuellement, je n'ai pas encore reçu le moindre client parce que quelques détails administratifs à régler.
Ouais.
Mais en fait, quand un client viendra me voir, déjà pour moi, dans un premier temps, c'est de comprendre qui est la personne, comment est-ce qu'elle évolue financièrement, comment est-ce qu'elle gagne par mois, combien est-ce qu'elle peut mettre de côté, quels sont ses projets à venir, parce que forcément, on ne va pas conseiller une personne qui a... On ne va pas conseiller de la même manière une personne qui a 70 ans, qui a déjà payé sa résidence principale, et une personne qui a peut-être 25-30 ans, qui va acheter sa résidence principale, qui va peut-être avoir des enfants, parce que c'est plein de contraintes en plus qu'il faut prendre en compte pour savoir comment est-ce qu'on peut investir. Parce que certaines personnes, et puis notamment aussi au niveau du risque, certaines personnes qui sont un peu entre guillemets des têtes brûlées, qui sont prêtes à prendre plus de risques, mais en contrepartie de plus de rendement, donc c'est là où c'est des stratégies qui se valent, tandis que d'autres personnes seront un peu plus frileuses, et d'ailleurs c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la mentalité française, les gens sont assez frileux à propos de l'investissement, et ça on le sait plutôt, c'est plutôt simple à voir, il suffit de regarder la répartition du patrimoine moyen d'un Français, et on se rend compte généralement que ce qui pèse le plus dans le patrimoine c'est de l'immobilier.
Okay.
Donc, notamment avec la résidence principale, puis ensuite éventuellement des investissements locatifs. Et ça, généralement, ça pèse assez fort dans le patrimoine d'un Français. Le problème, c'est que bon, ça attire pas trop de rendement. Bon, en contrepartie d'une certaine stabilité, généralement, dans les prix. Mais d'une manière générale, quand je vais conseiller un client, la première étape, ça sera vraiment de comprendre qui il est, de quoi est-ce qu'il a besoin, et ensuite de voir si ça va convenir aussi avec ce que je peux lui proposer, parce que... moi j'ai une approche qui est plutôt de faire suffisamment de rendement parce que quand on fait du rendement, il ne suffit pas simplement de regarder le rendement brut. Admettons que vous avez fait 6% sur une année, il ne faut pas simplement regarder le rendement brut, il faut déduire l'inflation et il faut déduire potentiellement les impôts que vous allez payer sur la plus-value. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu la douche froide, parce qu'en France, il y a l'Observatoire européen de l'épargne qui avait fait une étude et montré que sur 10 ans, en moyenne, un Français faisait 2,06% de rendement par an.
Okay.
Ce qui fait qu'une fois que tu déduis l'inflation et les impôts, souvent c'est la douche froide et il ne reste pas grand-chose, voire même des fois, en fait, on a une perte de pouvoir d'achat réel. Et il suffit de regarder, par exemple, une année comme 2022, où il me semble qu'il y a eu un pic à peu près de 9% d'inflation, ça peut vite faire très mal. Donc moi, j'ai plutôt une approche qui est d'aller vers du haut rendement, quitte à accepter plus de volatilité sur le long terme, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une appréciation de son patrimoine et réellement gagner de l'argent. Et à mon avis, moi, les clients qui ne voudront pas prendre de risque, plutôt que de les accepter en tant que client, je pense que je les refuserai et je les renverrai vers d'autres cabinets de gestion de patrimoine ou vers d'autres conseillers financiers, parce que ce n'est pas le genre de personne que j'ai envie d'accompagner. Alors, c'est un parti pris, ça ne plaît pas à tout le monde.
Ouais, bah oui.
Mais pour moi, j'ai envie de respecter entre guillemets mon identité et ce pourquoi je crois, qui est de battre l'inflation et de générer réellement du pouvoir d'achat avec ces investissements. Quoi.
Ok, donc là ce que je comprends quand les gens ils viennent vers toi, donc il y a déjà une création de proximité, de savoir qui est la personne et de comment elle évolue par rapport à ses finances.
Oui, bien sûr.
Et puis après il y a toujours ce côté de rendement en fait.
Je vais passer du coup sur la première partie de ta question. Oui, effectivement, il y a une logique de proximité parce qu'on ne confie pas son argent à n'importe qui. Enfin, même si je ne gère pas directement votre argent, je vous apporte en fait tous les conseils pour le gérer. Je vous dis exactement comment structurer votre portefeuille. Donc, c'est là où il y a une petite nuance à faire par rapport à ça. Mais je pense que la relation de proximité, c'est un truc qui est primordial, notamment quand on place son argent, parce que si on n'a pas confiance en la personne qui place notre argent, je pense que ça ne vaut pas le coup. Parce que,
c'est sûr.
Parce que c'est quand même des sujets entre guillemets assez sensibles. Puis généralement, on parle quand même de l'épargne d'une vie et de ce pourquoi vous avez bossé pendant des années. Pour moi, effectivement, c'est primordial de faire confiance à son conseiller financier ou du moins à son gestionnaire de patrimoine ou peu importe la profession entre guillemets qui accompagne financièrement. Et c'était quoi la seconde partie de ta question ?
Donc le côté rendement que tu apportes.
Le côté rendement, oui. Alors, pour moi, l'approche, l'idée de vraiment aller faire du rendement, elle est hyper importante parce que il y a certains moments où il faut moins prendre de risques sur les marchés financiers. Par exemple, là, jusqu'à, je pense, je pense qu'on va se taper une récession en 2024, une récession de fin de cycle économique qui, généralement, enfin, comme on en connaît une en moyenne tous les 10 ans, si on regarde l'histoire économique. Donc, généralement, bah, le marché action, voilà, enfin, il se passe ce qu'on appelle un crack. Enfin, les gens appellent ça un crack, généralement, de manière un peu plus commune. Et donc, pour moi, il faudrait mieux, à mon avis, pour 2024, éviter de trop s'exposer au marché action parce que je pense qu'il y a une bonne claque à prendre. Donc il faut se protéger par rapport à ça, mais sur le long terme je pense que c'est nécessaire d'être bien exposé au marché action, notamment au marché action américain, parce que pour moi c'est ceux qui produisent le plus de valeur sur le long terme, parce que les Américains tout simplement ont une économie qui est assez exceptionnelle. Et voilà. Et pour moi, vraiment, la pire chose à faire, c'est de garder du cash et de se mettre sur des placements sans risque sur long terme, parce qu'il y a un coût entre guillemets d'inaction qui est hyper violent, parce qu'on sait que l'inflation, enfin, on sait que les fonds euros ou les solutions sans risque comme le livret A ou les autres livrets de banque, généralement sur le long terme, ne permettent pas de compenser l'inflation. Et j'ai peut-être une statistique qui me vient en tête. Je crois que le rendement moyen annualisé du livret A depuis sa création, donc ça fait un peu plus de 200 ans. Je crois qu'il est de moins 0,5% par an si on déduit l'inflation. Et c'est là qu'on se rend compte que les solutions sans risque, généralement, en fait, d'un point de vue comptable, vous n'avez pas trop de risque. Par contre, d'un point de vue perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation, il y a un risque un peu plus fort qui se matérialise.
D'accord. Donc, c'est pour ça que tu dis, toi, aujourd'hui, tu n'acceptes pas forcément les personnes qui ne veulent pas prendre de risque en termes
C'est-à-dire qu'à mon avis, ça ne sera pas mon fonds de commerce. Et même si je regarde par rapport à la manière dont je vais facturer mes services... Je me dis que je me sentirais moins légitime à facturer mes services au prix que je propose si une personne ne prend pas de risque, parce qu'en fait il vaudrait mieux qu'elle aille dans une banque et qu'elle mette son argent sur le livret A ou sur une solution sans risque, en fait, parce que ça lui reviendrait limite moins cher, quoi.
Ok, et donc ça veut dire que là toi aujourd'hui tu as une grille tarifaire assez élevée.
Une grille tarifaire assez élevée. Alors pour la grille tarifaire, je prends pas un montant fixe, en fait je prends un montant fixe mais qui est exprimé en pourcentage par rapport à votre patrimoine. C'est à dire qu'entre un client qui a c'est à dire qu'un client qui a 1 million d'euros et un client qui a 100 000 euros ne va pas payer du tout le même montant, mais à chaque fois il va payer en l'occurrence ça sera normalement 1,3%. J'ai pas encore communiqué mes tarifs, c'est la première fois que je le fais. Mais normalement ça sera 1,3% de votre épargne financière. Donc que ce soit un client qui a 1 million d'euros à placer ou 100 000 euros ou 10 000 euros, je pourrais quand même, dans tous les cas, l'accompagner, quoi. D'où l'intérêt pour moi d'avoir un client forcément qui a plus de patrimoine, parce que c'est là où la rémunération est plus intéressante.
Ok, oui, donc pour toi aussi, c'est beaucoup plus rentable.
Du coup, mes services techniquement seront accessibles entre guillemets à n'importe qui, même si j'ai quand même, je préfère quand même que la personne soit prête à prendre un peu de risque et que forcément elle ait un minimum d'épargne, parce qu'on investit de l'argent, quoi.
Ok, d'accord. On va continuer cette interview juste après Funky Christmas de The Whisper. We'll be right back.
complètement à l'est sur RCN. Elfenoul.
Alors aujourd'hui avec donc Martin Blin, on parle de
conseil financier, comment placer son argent.
D'accord. Donc nous on s'est rencontrés dans le cadre d'un afterwork avec le club NEC. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce club et par rapport à
cet afterwork précis ou par rapport au club?
Bah plus par rapport au club. Comment ça se passe aujourd'hui alors, ta relation avec le club?
Le club NEC. Du coup moi je suis adhérent depuis je dirais à peu près 2 semaines. Alors en fait ouais, le club NEC, ils font des événements, enfin bon, c'est un réseau d'affaires mais qui se veut un peu plus familial entre guillemets que ce que propose la plupart des réseaux d'affaires, et un peu moins centré du coup sur la partie professionnelle, même si on peut quand même faire du business dans ce club là et rencontrer pas mal de monde pour avoir des opportunités professionnelles tout simplement. Le truc qui est intéressant avec le club NEC, c'est qu'en fait ils proposent pas mal de services différents, notamment bah, d'ailleurs très très axés sur comment dire, sur l'épargne et sur comment augmenter son niveau de vie.
Oui.
Avec notamment des formations sur l'investissement, enfin comment est-ce qu'on investit correctement. Où j'ai pas encore d'ailleurs regardé tout ce qu'ils proposent par rapport à ça parce qu'il y a trop de contenu. Mais j'ai jeté un coup d'œil et je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses intéressantes. D'accord. Même si forcément, vu que c'est quand même ma profession, je pense que je connais la plupart de ce qui est proposé. Je pense que pour le grand public, ça peut être intéressant de regarder justement ce qu'ils ont à proposer.
D'accord. Et toi, par rapport à ta profession, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans le club NEC aujourd'hui?
Bah, d'une part, forcément, un petit peu de contact pour développer son affaire, parce qu'on rencontre des personnes à droite à gauche qui potentiellement ont ces différents besoins de placer leur épargne. Alors même si effectivement les services de NEC en fait peuvent répondre pour une bonne partie, je dirais, aux problématiques d'investissement. Mais puis aussi, c'est un moyen de passer des bons moments parce que généralement, ils font toujours des événements dans des lieux insolites. Bah, d'ailleurs, l'événement où on s'est rencontrés, c'était un lieu de lancer de hache. Ouais. Et c'est là où on se dit, mais je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Enfin, bon, j'y étais déjà allé une fois, mais je trouve ce lieu vraiment chouette. Et c'est le moyen de passer un bon moment et de découvrir des nouveaux trucs. Et c'est sans cesse des événements comme ça, un petit peu à droite à gauche, dans des lieux chouettes. Enfin, une fois, il y avait Tesla, il me semble. Il y avait également une boîte qui s'appelle Ovelia, enfin, c'est une sorte de maison de retraite, mais vraiment moderne, et ça donne envie d'y habiter, alors que j'ai que 21 ans, mais vraiment, ça m'a assez bluffé.
D'accord.
Et également d'autres lieux, j'en ai plus en tête, mais c'est ça qui est assez cool avec ce club. Et puis, moi également, qu'est-ce que ça m'apporte professionnellement, du coup, pour répondre à la question, c'est que par la suite, je compte lancer un fonds d'investissement, et effectivement, j'en ai parlé avec leur fondateur, et potentiellement, ça pourrait l'intéresser de m'accompagner pour le lancement du fonds, en fait, pour lever suffisamment de capitaux, enfin, même si j'ai d'autres sources qui me permettront de lever des capitaux. Mais c'est toujours un moyen, entre guillemets, d'être un peu mis en avant. D'accord. Et d'avoir quelqu'un qui me fait confiance et qui peut m'introduire à un public un peu plus large. Mais ça sera pas pour tout de suite, du coup ça sera peut-être probablement d'ici un an et demi, on verra, parce que pas mal de choses à faire, mais voilà.
Oui, déjà, tu m'as parlé du lancement de tes locaux, mais enfin, pas forcément maintenant.
Pour le moment, j'ai pas encore de locaux parce que je pense que d'une manière générale, j'irai me déplacer à chaque fois chez mes clients parce que, comme j'ai expliqué juste avant, il y a toujours cette relation de proximité que je veux avoir avec mes clients parce que j'estime que les voir chez eux, c'est être au plus proche d'eux. Et puis parce que, en fait, pour le départ, je vois tout simplement pas trop l'intérêt de prendre des locaux, sachant que je bosse depuis chez moi, j'ai déjà mon bureau, enfin, tout le matériel qu'il faut.
Ok.
Donc j'estime que pour le moment c'est pas nécessaire d'avoir des locaux, mais bon après forcément si l'activité elle grossit, au bout d'un moment je prendrai quand même des locaux.
Oui, parce que c'est tout nouveau quoi.
Parce que oui, effectivement.
Et comment ça impacte toi par rapport à ton travail aujourd'hui, vu que tu travailles seul en fait?
Alors oui, je travaille seul, mais bon, je connais pas mal de monde, comment dire, je m'entretiens régulièrement avec des gens qui sont dans la finance, bon, qui ont souvent des professions très différentes. Mais moi je dirais que ça m'apporte un plus et que ça me permet d'avoir la vision des autres par rapport à ça. Et que même si oui, effectivement, je travaille seul au quotidien, ça ne m'empêche pas d'aller réseauter un peu à droite à gauche, de comprendre les problématiques de la plupart des gens et surtout de voir comment fonctionnent, entre guillemets, mes partenaires, mes concurrents, enfin, ou mes confrères, parce que je connais plusieurs gestionnaires de patrimoine. Bah, d'ailleurs, j'ai plusieurs rendez-vous prévus avec eux cette semaine. Je connais également des notaires. Donc en fait, c'est toujours intéressant d'échanger avec ces professions-là Il y a une certaine différence par rapport à ce que je fais au niveau du conseil financier, mais il y a toujours certains sujets où effectivement je peux avoir des problématiques où je vais avoir besoin d'eux. Par exemple, quelqu'un qui aura envie de transmettre pour ses enfants une partie de son patrimoine, le mieux c'est de demander conseil à un notaire. Et vu que je connais deux notaires, et bah, c'est toujours intéressant de pouvoir traiter avec eux en direct et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir bosser sur telle ou telle situation.
D'accord, donc au final tu travailles pas forcément seul, t'as quand même des gens autour.
Oui, officiellement, pour mon activité je bosse tout seul, mais je peux faire appel à plein de partenaires extérieurs, notamment des gens qui sont dans l'immobilier. Notamment un mec qui a un petit peu plus de 30 ans et qui a déjà plus d'un million d'euros de biens immobiliers. Enfin, un mec qui est très compétent. Donc, en fait, c'est là qui est intéressant. Bah, d'ailleurs, que j'ai connu grâce au Club NEC. Donc, comme quoi, on fait des belles rencontres. Quoi.
Pas faux. D'accord. Et aujourd'hui, lorsque, enfin là, nos auditeurs, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter sur un sujet d'investissement, par exemple ?
Alors, un des points qui est assez violent, d'une manière générale, dans l'investissement, en fait, c'est les frais que vous font payer vos conseillers bancaires ou vos gestionnaires de patrimoine. Il faut savoir que eux, en fait, une bonne partie de leur rémunération, c'est de vendre des produits financiers avec des frais élevés et généralement de retoucher une partie de ces frais, ce qu'on appelle la rétrocommission ou la rétrocession. Okay. Et ça, généralement, ça va déduire fortement votre performance nette parce que c'est des frais, tout simplement. Donc, là, pour moi, en fait, ce que je vous recommanderais, ce serait de vous... De plutôt aller vers des produits financiers qu'on appelle des ETF. Parce que les ETF, en fait, généralement répliquent des indices boursiers, donc par exemple le CAC 40, le S&P 500 ou quoi. Et ça, sur le long terme, il faut comprendre que la plupart des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre les performances de ces indices boursiers. Donc en fait, autant aller sur ces indices boursiers qui, par nature, sont diversifiés. Par exemple, le CAC 40, il y a 40 entreprises. Le S&P 500, il y a 500 entreprises. Moi, je préfère le S&P 500 parce que, encore une fois, les Américains font plus de croissance. Mais pour moi, ça me paraît être une plutôt bonne solution, quoi. Et éventuellement de privilégier de manière générale l'assurance vie et pourquoi pas le PEA, même si moi je recommande plutôt l'assurance vie parce que c'est ce qu'il y a de plus flexible. À noter que pour moi il vaut mieux éviter le compte titre parce que le compte titre, pour ceux qui savent, en fait, le compte titre n'apporte pas d'avantages fiscaux peu importe le nombre d'années que vous le détenez, donc en fait il vaut mieux aller vers des solutions qui sont plus intéressantes de ce point de vue.
D'accord. Bah, là, en soit, moi personnellement, je ne m'y connais pas forcément, donc je me mets à la place des auditeurs. Là, si j'ai envie de m'intéresser à ça et de me lancer, est-ce qu'il y a un endroit où je peux m'informer ou il faut directement aller voir un conseiller financier comme toi ?
Je pense qu'il vaut mieux me contacter. Non, mais après, oui, il y a des chaînes d'investissement sur YouTube qui peuvent être assez intéressantes. J'en ai une en tête, Finari peut-être, une chaîne YouTube qui s'appelle Finari qui peut être intéressante. Et puis après, d'autres chaînes plus spécifiques, mais... pourquoi pas cette chaîne-là, effectivement, pour juste avoir un petit peu les bases de l'investissement passif, entre guillemets, et accessible au grand public.
D'accord. Bah, nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, un dernier mot
Que d'ici quelques semaines, mon cabinet de conseil sera prêt, donc j'ai hâte de pouvoir vous accompagner financièrement. Puis,
D'accord. Un lieu où te retrouver, LinkedIn, Instagram.
Oui, sur LinkedIn, je m'appelle Martin Blin, j'ai une photo en costume où je fais un peu de portrait. Donc,
D'accord. Je te remercie d'avoir été là pour cette interview.
Écoute, merci Élie de m'avoir invité, ça me fait extrêmement plaisir.
Pas de souci. Et puis nous on se retrouve donc après les fêtes le 12 janvier. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette interview et puis je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir.